Le lendemain, mardi 18, La République du Centre, le quotidien régional était représenté par une journaliste de la rédaction de Chartres, FR3 par une équipe de Paris Île-de-France Centre et Le Figaro avait dépêché une stagiaire du service culture. C'était bien le moins qu'il devait faire. N'était-il pas omniprésent dans les romans de Proust qui, comme son héros, y collabora. Et même s'il le qualifie via un personnage de journal du sabre et du goupillon, des 5 o'clock, sans oublier le bénitier. Et le public avait augmenté d'un tiers. Deux radios avaient évoqué en bref l'initiative de Fabrice, curieusement sur le même mode, une mémoire d'éléphant en hommage à Marcel Proust, pour Fréquence Île-de-France, et un éléphant qui ne se trompe jamais, l'incroyable marathon littéraire de Fabrice Pelletier pour RMC. Dans la pièce où naissait l'événement, le ton, le décor était toujours sobre, mais un bouquet d'aubépines avait été placé sur une table de chevet. À 9h30, la représentation qui s'ouvrit mena de Combray à Paris, où le jeune héros n'ignore rien des comédiens de théâtre, chez l'oncle Adolphe, où l'on croise la dame en rose, l'on revient au village pour faire la connaissance de la fille de cuisine, ressemblant à la charité de Giotto. Son café est de l'eau chaude, et l'eau chaude pour les chambres est tiède. Bloch fait son entrée en parlant de Bergotte, que le héros lit. Il y a aussi la première allusion aux Juifs, quand le grand-père évoque sans aménité, mais sans malveillance, les amis du héros qui le sont, et Fabrice, qui avait eu le temps d'y réfléchir, craignait qu'avec celle qui suivrait, elle suscita des réactions intempestives. Mais il n'en fut rien. Et ce n'est pas pour ses origines que le père du héros lui lance « Il est idiot, ton ami », mais à cause du désintérêt que Bloch affiche pour le temps qu'il fait. Quant à Swann, il a retenu, lui, la ressemblance du jeune homme avec le portrait de Mahomet II par Bellini. La seule préoccupation de l'assistance concernait les nécessités de s'éclipser pour des besoins naturels. Ce fut un des messieurs âgés qui, le premier, tenta une sortie qu'il espérait discrète. Fabrice fit mine de ne s'apercevoir de rien. Les personnages se succédaient. La Berma, inégalable dans le rôle de Phèdre. Mademoiselle Swann, la fille de cuisine. Le curé et son érudition sur les vitraux. On sut que le samedi, le déjeuner est avancé d'une heure pour que Françoise puisse aller ensuite au marché de Roussainville-le-Pin et que ce changement est source de plaisanterie pour qui l'aurait oublié. Vous savez bien que c'est samedi. C'est ce jour-là qu'on rencontre parfois Monsieur Vinteuil, le professeur de piano des sœurs de la grand-mère, et sa fille, qui a l'air d'un garçon. D'une voix toujours égale, Fabrice raconta comment l'indispensable Françoise est capable d'être odieuse en forçant la fille de cuisine à éplucher des asperges, en sachant que cela lui provoque de violentes crises d'asthme, au point qu'elle est obligée de finir par s'en aller. Tels furent les derniers mots de Fabrice, alors que 13 heures venaient de sonner. Après s'être égaillé tandis que le récitant s'était retiré, tous se retrouvèrent pour la reprise à 15 heures. Par la voix prenante de Fabrice, les héros proustiens s'installaient peu à peu. De l'étrange attitude de Monsieur Le Grandin, qui n'empêche pas le héros, qui a été frappé par sa croupe charnue, d'aller dîner chez lui. Aux Guermantes, que ce snob affirme ne pas connaître, en passant par les Cambremer, ses parents. Le texte évoque Balbec, de Combray les promenades, celle du côté de mes églises, passant devant la propriété de M. Swann, et le côté de Garmante. Les amateurs attendaient les aubépines et, dans un raidillon, une fillette nommée Gilberte. Gourmands et émus, tant Fabrice entretenait une magie efficace, car simple et dépouillée. Quand Fabrice eut dit, et sa main esquissait en même temps un geste indécent, auquel, quand il était adressé en public à une personne qu'on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens, celui d'une intention insolente. Farid se pencha à l'oreille de sa voisine, qu'il ne connaissait pas, mais qui se trouvait être celle qui lui avait déjà répondu au déjeuner sur une autre question sensible. J'ai mal compris, ou elle lui a fait un doigt d'honneur ? Questionna-t-il à voix basse. La réponse vint d'une éminente proustologue, Madame de Custière, présente aussi depuis la veille. Proust ne précise pas, mais oui, ça ressemble à l'impudicus des latins. Mais dites-moi, jeune homme, ça fait deux fois que vous vous préoccupez de sujets, disons, en dessous de la ceinture. Il ne faudrait pas que vous réduisiez Proust à ces anecdotes. Bien sûr que non. Mais Farid était piqué au vif. Vous savez, dans mon milieu, on est assez pudique, franchement pudibon même. Du coup, ça m'a frappé, je ne m'attendais pas à de telles scènes dans une telle œuvre. Et il y en aura d'autres, encore plus crues. Si Farid était encore là, c'est qu'il avait couru le risque de sécher les cours pour ne rien rater de ce qui lui apparaissait comme miraculeux. Les mots et le style l'envoûtaient. Il sentait bien que la famille Vinteuil, père et fille, n'étaient pas que de passage dans l'œuvre, et il allait vite apprendre que la si française église de Saint-André-des-Champs serait un symbole durable pour l'auteur. Il était subjugué d'entendre les désirs du héros, d'une paysanne de Méséglise ou de Roussainville, d'une pêcheuse de Balbec. Quant à la scène d'amour trouble entre Mademoiselle Vinteuil et une amie, elle lui tourneboulait les sens, qu'il retrouva apaisé quand arriva la comparaison de la source de la Vivonne avec l'entrée des enfers. Il retint enfin que le héros voulait un jour être un écrivain. Et il comprit, mais ce n'était pas compliqué, que de ça aussi on reparlerait.